don't know of any program in Uganda.
Of course not.
يصلون الليل بالنهار استعدادا.
¿Cuál sería su reacción?
21 веке гражданка Райс вспомнила.
这两天原本居住在祁连县偏远牧区的牧民南家
都忙了。
Todos juntos.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international quotidien que vous retrouvez tous les jours à 11h sur France Culture. On est ensemble jusqu'à 11h50. Une émission préparée ce matin par Tiphaine de Rocchini, mais aussi Clément Salazar, Xavier Martinet, réalisée par Charles Le Gargasson. À la technique ce matin, Tristan Gratalon. On poursuit notre série débutée hier, Transport Maritime, la Grande Traversée. Nous parlions hier du navire cargo, ce fleuron de la mondialisation. Aujourd'hui, Panama, Suez, Arctique, la bataille des passages.
C'est sans doute la voie maritime la plus stratégique au monde, le détroit d'Ormuz qui sépare l'Iran de la péninsule arabique, voit passer chaque année un tiers de la production mondiale de pétrole.
C'est très facile pour les forces armées de la République islamique d'Iran de fermer le détroit d'Ormuz. C'est une possibilité que nous avions dès le début intégrée dans la stratégie de nos forces navales.
Et si Ormuz ferme, ces centaines de pétroliers seraient bloqués, faisant flamber le cours du baril.
On paierait 2 euros pour un litre d'essence à la pompe, un prix insupportable. Le baril serait à 120 euros. C'est une réelle inquiétude.
Si l'UE et Washington persistent à envisager des mesures contre les exportations de pétrole iranien, aucune goutte de pétrole ne transitera par le détroit. Hormuz, c'est la véritable carte maîtresse de l'Iran.
Hormuz, la carte maîtresse de l'Iran, fin 2011, on entendait l'amiral Habibollah Sayari, amiral iranien, déclarer à la télévision « Fermer le détroit est très facile pour les forces armées iraniennes, il est complètement sous notre contrôle, le fermer c'est comme boire un verre d'eau, comme on dit en persan », disait-il. La menace ressurgit dès que les relations entre la communauté internationale et Téhéran se durcissent. En effet, la République islamique d'Iran agite régulièrement le spectre d'un blocage du détroit d'Hormuz, au débouché du golfe arabo-persique entre l'Iran et Oman, ce passage décisif, notamment pour les supertankers transportant le pétrole de la région, alors qu'il s'agisse du détroit d'Ormuz, de Malacca ou encore du canal de Panama, les passages maritimes constituent bien sûr des zones stratégiques de première importance qui ont un impact considérable sur les relations internationales. Alors comment les grandes puissances, comme la Chine ou les États-Unis notamment, on en parlera, avancent leurs pions pour asseoir leur présence dans ces espaces? Comment les pays riverains tentent-ils de défendre leur souveraineté nationale? Quels sont les enjeux géopolitiques des travaux d'élargissement aussi du canal de Suez, du canal de Panama, devenu absolument indispensable au commerce mondial? On ira justement du côté du canal traversant l'isthme de Panama, avec Marc de Banville, qui est un journaliste, historien, auteur d'un ouvrage sur le canal de Panama, Un siècle d'histoire, paru récemment aux éditions Glénat, sur le plus grand chantier de génie civil au monde. Les travaux d'élargissement ont été retardés pour des raisons financières, on le verra, mais les tensions géopolitiques sont également présentes, d'autant qu'il existe un projet concurrent, le canal du Nicaragua, à l'origine duquel on trouve le grand concurrent américain, la Chine, bien sûr. Et puis enfin, on retrouvera à Kuala Lumpur Nathalie Faux, maître de conférence à Paris 7, qui nous parlera des enjeux du détroit de Malacca pour la Chine, l'Inde, les États-Unis, le Japon, enfin pour toute la région et en fait pour l'ensemble du monde. Pour évoquer ces questions, cette bataille des passages maritimes, aujourd'hui, nous avons invité Pierre Royer. Bonjour Pierre Royer.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes historien, enseignant, auteur d'un livre qui est une deuxième édition, Géopolitique des mers et des océans, qui est paru aux presses universitaires de France, je ne me trompe pas. Mmh. Alors, vous l'entendez. Décembre 2012, lors de manœuvres navales, Téhéran menace une fois encore de fermer le détroit d'Ormuz, qui est évidemment un couloir stratégique, je le disais dans mon introduction, pour le trafic maritime pétrolier international. Pour rappel, presque la moitié, je crois, des flux maritimes pétroliers passent par ce passage.
Entre 30 et 50%.
À peu près, bon, ça dépend des moments. 60 km de long, à peine 40 km de large. On entendait l'amiral Habibollah Sayari déclarer « La sécurité du détroit d'Ormuz est entre nos mains. Le détroit est sous notre contrôle. C'est très clair », disait-il. À l'époque, en décembre 2012, le secrétaire général de l'OTAN, Anders Fogh Rasmussen, avait même réagi, se disant totalement prêt à faire face à l'éventualité d'une fermeture de ce détroit. Dans quelle mesure est-ce que le blocage de ce corridor vous paraît possible, Pierre Royer? Et est-ce qu'il s'agit finalement seulement, j'allais dire, d'un chiffon que Téhéran agite régulièrement, mais finalement pas d'inquiétude à avoir? On ne verra pas Hormuz fermé un jour.
Alors, d'une part, c'est vrai que techniquement parlant, le détroit d'Ormuz est fortement dépendant de la bonne volonté de l'Iran, puisque l'Iran occupe depuis déjà la période du Shah, hein, donc c'était avant la République islamique, occupe les îlots qui sont au centre, enfin à peu près au centre du passage. Donc, elle a effectivement, ce pays a une surveillance sur le détroit qui est extrêmement forte. Maintenant, les grandes puissances sont aussi présentes, puisque les États-Unis ou la France ont des bases naval dans le golfe Persique ou à proximité avec Djibouti, par exemple. Donc il est clair qu'en cas de menace sur la sécurité d'Ormuz, il y aurait une réaction extrêmement rapide.
Mais d'un point de vue purement naval, l'Iran a les capacités navales de fermer ce détroit ?
C'est difficile à dire parce qu'en fait, du point de vue naval, ce que l'Iran pourrait faire, c'est couler des pétroliers, par exemple, qui passeraient.
Ce qu'elle avait fait d'ailleurs au moment de la guerre Iran-Irak 80-88, où Bagdad et Téhéran avaient joué entre guillemets à ce petit jeu, essayant en gros d'éliminer les tankers qui permettaient de sortir le pétrole de l'un et l'autre pour essayer d'assécher.
Tout à fait. Hein. Mais on avait vu justement à l'époque que les Français, les Américains en particulier, avaient réagi, avaient envoyé des moyens navals et que les Américains avaient réussi à couler quand même des navires majeurs de la marine iranienne. Donc on peut penser que ce soit pour les mines, par exemple, ou pour des interventions de navires, les Occidentaux ont les capacités de réagir. Les Occidentaux et peut-être d'autres, parce que la Chine est aussi de plus en plus présente dans l'océan Indien, et c'est certainement elle qui accepterait le moins facilement que le détroit d'Ormuz soit fermé, puisqu'elle en dépend beaucoup plus que les États-Unis.
C'est ce que j'allais vous dire. Au fond, les capacités, très bien, mais est-ce qui en a le désir ? Parce que la question qu'il y a derrière, c'est qui seraient les principaux perdants d'une éventuelle fermeture d'Ormuz ?
Bien, d'abord les pays asiatiques. Puisque
avant les États-Unis.
Bien avant les États-Unis. Mmh. Les États-Unis, aujourd'hui, importent leur pétrole. Alors d'abord, ils en importent de moins en moins, puisqu'ils sont eux-mêmes producteurs grâce au pétrole de schiste. Mais ils en importent l'essentiel, ils l'importent de leurs voisins, c'est-à-dire Mexique, Canada aussi, Venezuela, qui est le troisième fournisseur américain. Ils en importent de plus en plus aussi d'Afrique. Donc le Moyen-Orient a considérablement baissé. Ou alors, les Américains peuvent importer aussi du pétrole saoudien, mais le pétrole saoudien passe par le sud. C'est-à-dire qu'il y a un port pétrolier lié à Jeddah, qui est sur la mer Rouge, et donc il n'a pas besoin de passer par le détroit d'Ormuz. Mmh. Donc ce qui passe par le détroit d'Ormuz, qui ne peut pas passer par ailleurs, c'est le pétrole iranien, ce qui veut dire qu'aussi, un des gros perdants, ce serait l'Iran lui-même, puisqu'il ne pourrait plus exporter aussi facilement son pétrole, même s'il y a des oléoducs vers le nord.
Ouais, donc c'est se tirer une balle dans le pied.
C'est un peu se tirer une balle dans le pied, et puis ça serait aussi le Qatar, par exemple, dont le gaz passe, ou un peu de pétrole, mais surtout le gaz, passe par des méthaniers qui, eux aussi, empruntent le détroit d'Ormuz. Donc je dirais que c'est une menace qui est relativement crédible, parce que c'est vrai que si on arrive à couler suffisamment de navires dans ces passages, le passage peut effectivement être durablement empêché. C'est plus crédible, enfin c'est une forme de blocage qui est plus crédible, par exemple, que le minage, parce qu'en cas de minage du détroit, il aurait une intervention assez rapide des marines occidentales qui pourraient déminer sans trop de difficultés.
Mais c'est intéressant ce que vous dites, parce que en gros, puisqu'on comprend que finalement c'est l'Asie et au premier rang peut-être la Chine qui serait impactée.
Oui, puis c'est le Japon, puis la Corée. Enfin, voilà,
Mais du coup, dans l'éventualité d'une fermeture, même si on comprend bien qu'une fois encore, l'Iran serait le premier perdant finalement dans cette histoire-là, mais on pourrait plutôt s'attendre à ce que ce soit des forces navales chinoises qui interviennent, ça serait envisageable
Ça serait envisageable.
Parce que là, d'un point de vue symbolique, les États-Unis apprécieraient moyennement, j'imagine.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que pour l'instant, tout le monde s'accommode du fait que ce soit les États-Unis qui assurent la sécurité de toute cette région, grâce à la présence de la 5e flotte qui est à la fois sur le golfe Persique et sur l'ouest de l'océan Indien, et aussi éventuellement du renfort de la 7e, puisque la 7e flotte a également contrôle une partie de l'océan Indien dans la partie est.
D'accord. Donc, l'acteur majeur pour l'instant dans cette région, d'un point de vue naval, ça reste les États-Unis.
Tout à fait. C'est les États-Unis. Après vient la France, parce que la France a deux bases navales et des moyens déployés en permanence, donc à Djibouti et à Abu Dhabi. Et puis après, vous avez les acteurs locaux, l'Inde, qui elle aussi serait pénalisée, bien sûr, parce qu'elle importe beaucoup de pétrole également. 95% de son pétrole vient de l'extérieur. Et puis, ça pourrait donc être la Chine. Alors, simplement, la Chine, aujourd'hui, on peut penser qu'elle n'a pas forcément tous les moyens, sur place en tout cas, pour réagir à tous les types de menaces.
Du point de vue du droit, Pierre Royer, qui a la charge de la sécurisation de ce détroit d'Ormuz ?
Alors, les détroits, en fait, ce sont des territoires, ou des zones plutôt, qui ont un statut juridique un peu particulier. C'est-à-dire que, avec les modifications du droit international et du droit de la mer depuis 82, la plupart des détroits sont devenus de la responsabilité des États riverains. Parce qu'avant, il y avait toujours dans un détroit un passage qui était un passage international, puisque les mers territoriales n'allaient que jusqu'à 3 nautiques des côtes. Donc au-delà de 6 nautiques de détroit, on avait forcément un passage qui était international. Tandis qu'aujourd'hui, donc, la plupart, avec des eaux territoriales à 12 nautiques, la plupart des détroits sont, à un moment ou à un autre, dans les eaux territoriales de l'un ou de l'autre des riverains. C'est le cas, par exemple, du Pas-de-Calais. Donc Hormuz dépend de l'Iran, et des voisins, c'est-à-dire Oman, les Émirats Arabes Unis, par exemple.
Le Qatar aussi.
Le Qatar. Non, le Qatar est un peu plus à l'intérieur du Golfe Persique, donc il n'est pas directement sur Hormuz. Oui. Donc, ce sont ces pays-là qui ont un petit peu le contrôle territorial du passage, qui organisent d'ailleurs la navigation en rail, comme dans la plupart des détroits maintenant très fréquentés. Mais il faut savoir aussi que dans le droit international, justement, les États sont tenus, même quand ils sont propriétaires, entre guillemets, des eaux, ils sont tenus de laisser dans les détroits un libre passage. C'est-à-dire que les navires peuvent circuler, y compris les navires de guerre d'ailleurs, ce qui est nouveau depuis 82, peuvent circuler du moment que c'est un passage qu'on appelle rapide et inoffensif en droit. C'est-à-dire que...
Qu'est-ce que ça veut dire,
ça veut dire rapide? C'est-à-dire que c'est manifestement un navire qui ne traîne pas ou qui ne fait pas exprès de traîner ou qui ne s'installe pas pendant quelques heures ou jours dans le détroit, et inoffensif, c'est-à-dire qu'il ne fait aucun geste d'agressivité. Par exemple, si c'est un navire de guerre, il ne se manifeste pas par une agressivité particulière. Et dans ce cadre-là, les États ne peuvent pas empêcher le passage dans leur détroit. Donc ça, c'est une grande avancée, on va dire, parce que les détroits, d'une certaine façon, sont bien sûr de la responsabilité juridique de l'État riverain, sauf statut particulier comme le Bosphore, dont on parlera tout à l'heure. Mais en même temps, les riverains ne peuvent pas en faire ce qu'ils veulent. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas imposer un péage, ils peuvent pas, ils n'ont pas de possibilité de bloquer, justement, sans raison, leur détroit.
Alors, le Bosphore, justement, Pierre Royer, donc on est à Istanbul, c'est la limite entre les continents asiatiques et les continents européens, c'est le détroit qui relie la mer Noire à la mer de Marmara, qui elle-même débouche sur la Méditerranée, c'est un des passages les plus empruntés au monde, plus de 50 000 navires l'empruntent chaque année, c'est quand même conséquent, c'est-à-dire c'est plus du double que ce qui passe par le canal de Suez.
Donc, c'est à peu près. Hein.
Parfois, les navires, dont beaucoup transportent, c'est vrai, du pétrole et du gaz, attendent plusieurs jours avant de s'y engager. D'ailleurs, quand on est à Istanbul et quand on regarde ça, c'est vraiment un spectacle absolument étonnant pour l'avoir vécu. Par ailleurs, c'est un passage dangereux sur le plan écologique. Hein. On se souvient notamment en 1999, ce pétrolier russe qui s'était fendu en deux, qui avait provoqué cette gigantesque marée noire. Ouais. Et en 2011, donc, le Premier ministre Erdogan avait annoncé un projet de nouveau canal, un projet pharaonique censé éclipser Suez et Panama.
Istanbul, à partir de maintenant, sera une ville qui aura deux mers. Avec ce projet, il y aura deux péninsules et une île à Istanbul.
Voilà, donc 2011, Premier ministre Erdogan, devenu maintenant le président de la Turquie, qui annonce en pleine campagne un nouveau canal entre donc la mer Noire et la mer de Marmara, destiné un petit peu à désengorger ce Bosphore. Où est-ce qu'on en est du projet, 3 ans après?
Alors, à ma connaissance, l'Assemblée turque a voté l'autorisation, on va dire, du canal. Mais pour l'instant, je n'ai pas vraiment connaissance d'avancée, ni sur le plan du financement, qui est lui-même pharaonique, ni sur le plan du début des travaux ou d'un projet précis avec un tracé, etc.
Alors, en tout cas, sur le plan géostratégique, Pierre Royer, voilà ce que j'ai trouvé sur le site de La Russie Nouvelle, à propos du projet de canal. Les raisons économiques de la construction du canal alternatif au Bosphore sont discutables. En revanche, les raisons politiques ne le sont pas. La convention de Montreux permet aux pays qui n'ont pas de littoral sur la mer Noire d'acheminer à travers le canal uniquement des navires de surface léger et navires auxiliaires. Et puis, ça poursuit plus loin. Toutefois, ces restrictions ne s'appliqueront pas au canal qui sera parallèle au Bosphore. L'équilibre militaro-politique régional sera ainsi déplacé en faveur de la Turquie et ses alliés. Quand on dit la Turquie et ses alliés sur la Russie Nouvelle, on comprend ce que ça veut dire. On comprend que c'est l'OTAN. Voilà. Rappelons quand même, la Turquie fait partie de l'OTAN depuis 1951. Donc quand on parle des alliés de la Turquie, on pense clairement aux Américains. Alors dans quelle mesure la Russie a raison finalement de s'inquiéter? Est-ce qu'il faut imaginer que, je ne sais pas, des porte-avions, des sous-marins même, pourquoi pas, pénètrent en mer Noire? Ou, rappelons-le quand même pour nos auditeurs, se trouve quand même la Crimée fraîchement rattachée de facto à la Russie.
Par exemple. Bah, oui, c'est sûr que justement, c'est, enfin, l'enjeu juridique de ce deuxième Bosphore est probablement bien plus important, et géopolitique bien plus important que l'enjeu économique, parce que la rentabilité économique de ce canal est quand même relativement douteuse. Même si c'est vrai que, comme vous l'avez rappelé, le Bosphore aujourd'hui, les navires doivent l'emprunter, les navires d'une certaine taille doivent l'emprunter un par un. On peut pas, ils ne peuvent pas l'emprunter à plusieurs, donc forcément, ça retarde énormément le trafic. Cela dit, on peut trouver d'autres solutions.
Un par un, par quand exemple, on est en surface, oui, dites-moi, oui, mais quand on est immergé...
Il peut pas y avoir de sous-marins. Les sous-marins sont interdits normalement dans le Bosphore, et en plus, bon,
sauf les sous-marins turcs. Pour avoir fait quelques recherches hier sur Google Images, pour ne pas citer, je peux vous garantir que j'ai vu un certain nombre d'images de sous-marins dans le Bosphore.
Oui, mais parce que bon,
c'est
pour la photo. Ils en profitent pour manifester un peu, parce que faut bien savoir que cette affaire des conventions de Montreux, oui, c'est quand même un reste d'une soumission en quelque sorte de la Turquie après une série de défaites au 19e et au 20e siècle. Et encore, la convention de Montreux de 1936 était pour les Turcs plus acceptable que ce qu'on avait prévu dans le traité de Sèvres, qui était le traité qui devait mettre fin à la Première Guerre mondiale du côté de la Turquie. Donc la Turquie était presque dépossédée de ses détroits, et c'est le cas d'ailleurs, puisque officiellement, avec la convention de Montreux, la Turquie ne peut pas faire n'importe quoi dans le cadre de ces détroits qui sont pourtant intérieurs.
Qu'est-ce qu'elle
ne peut pas faire? Il y a un certain nombre de restrictions, par exemple à la navigation, qu'elle ne peut pas imposer. Alors, elle a dû négocier, par exemple, le fait de pouvoir de faire passer les navires un par un, le fait d'obliger à utiliser un pilote turc pour passer le Bosphore, à la suite d'une série d'accidents, d'ailleurs, parce que vous en rappeliez l'un qui était particulièrement...
Ça se fait dans beaucoup d'endroits, Panama aussi, par exemple.
Oui, mais Panama, c'est un canal, c'est-à-dire que c'est une voie d'eau intérieure. Le Bosphore, c'est un peu comme une voie d'eau intérieure, puisque d'une certaine façon, c'est la Turquie d'un côté et la Turquie de l'autre, donc c'est pareil, les Dardanelles également. Mais justement, la convention de Montreux obligeait la Turquie à accepter en fait un certain nombre de règles et accepter le fait que le statut de ces détroits ne lui échappe un petit peu, notamment en temps de guerre, par exemple, les détroits sont fermés et la Turquie n'a rien à dire. Donc tous ces éléments, si vous voulez, font que le Bosphore pour la Turquie est un petit peu une gêne malgré tout. Sans parler évidemment du problème du trafic est-ouest, c'est-à-dire le trafic à l'intérieur d'Istanbul, qui vient télescoper le trafic nord-sud. Et donc, bon, il y a tout un ensemble de complications à ce niveau-là. Donc, sur le plan de la Turquie, le deuxième Bosphore, ça serait une façon de récupérer effectivement un peu de souveraineté. Ça serait une façon aussi de faire payer peut-être plus cher encore le passage, si les armateurs veulent bien passer par là en échange d'un traitement un peu plus rapide. Mais effectivement, la grande différence, c'est que comme la convention de Montreux interdit le passage de certains navires de guerre, et notamment de navires de guerre qui viennent de l'extérieur, mais aussi des riverains, hein, d'ailleurs, le passage deviendrait beaucoup plus libre, ou en tout cas à l'appréciation de la Turquie. C'est-à-dire que, par exemple, les soviétiques, du temps de l'URSS, avaient inventé une catégorie de navires, d'ailleurs, qu'ils avaient appelé le croiseur porte-aéronef, tout simplement parce que les croiseurs sont autorisés dans la convention de Montreux, ils peuvent passer le Bosphore, alors qu'un porte-avions ne peut pas. Voilà. Donc pour faire une sorte de côte mal taillée, ils avaient décidé que leur porte-avions ou leur début de porte-avions s'appellerait des croiseurs porte-aéronefs. Et donc, avec le terme croiseur, ils étaient autorisés à passer. Alors, c'est vrai que l'enjeu, en fait, n'est pas tellement pour la Russie, enfin, de façon indirecte, mais plus pour les États-Unis, parce que pour l'instant, effectivement, les États-Unis ne peuvent pas envoyer de porte-avions ni de sous-marins, effectivement, en mer Noire.
Et alors, donc, vous pensez que c'est la raison pour laquelle Erdogan a lancé ce projet, et vous pensez qu'il aboutira, et vous pensez qu'on verra passer des porte-avions qui iront se poster pas très loin de Sébastopol, par exemple, au hasard?
Oui, c'est pas exclu. Alors, cela dit, en même temps, un porte-avions n'a pas forcément besoin d'être pas très loin de Sébastopol. On voit bien, aujourd'hui, même, par exemple, pour les frappes au nord de la Syrie, des porte-avions qui sont en mer Rouge, ou qui sont dans le golfe Persique, ou qui sont en Méditerranée, y arrivent très bien. Et donc, pour la mer Noire étant un territoire qui est pas très grand, c'est à peu près pareil. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de s'approcher aussi près pour lancer une frappe, si on veut lancer une frappe. Ce qui me paraît de toute façon très très improbable.
France Culture, Culture Monde par Florian Delorme.
Panama, Suez, Arctique, la bataille des passages. On en parle ce matin avec Pierre Royer, historien, enseignant, auteur de Géopolitique des mers et des océans. On va poursuivre dans Culture Monde cette série sur le transport maritime et aujourd'hui ses considérations géopolitiques. Direction à présent le Panama, donc l'extrême sud de l'Amérique centrale, cette étroite bande de terre séparant l'océan Pacifique et la mer des Caraïbes et donc l'océan Atlantique aussi. Pour passer de l'un à l'autre, eh bien, il y a évidemment le célèbre canal de Panama.
C'est une grande expérience pour moi. Ma première traversée du canal de Panama. Jusqu'à présent, ça me plaît. Pilote à bord.
Ok, je prends les commandes. Nous voilà sur le lac Gatun. On va continuer sans jeter l'ancre. On est dans les temps. Vers 19h30, nous devrions être dans le Pacifique.
Alors, c'est comment le Pacifique ?
Tranquille. Pour moi, il n'y a pas mieux. Beaucoup plus tranquille que l'Atlantique. L'Atlantique, ça bouge toujours, c'est agité. Mais le Pacifique, c'est plus calme, c'est tranquille.
Le Pacifique, c'est tranquille, c'est tranquille. Alors ce canal de Panama, augmentation du trafic de 25%, c'est ce qu'on attend. Aujourd'hui, c'est à peu près un tiers, je crois, des échanges Asie-Pacifique qui passent par ce canal. C'est à peu près 5% du trafic maritime. On retrouve Marc de Banville, qui est journaliste, qui est historien, auteur de ce livre « Le canal de Panama, un siècle d'histoire » qui vient de paraître aux éditions Glénat. Vous avez passé, Marc de Banville, une quinzaine d'années au Panama. Vous y êtes retourné cette année pendant près de 9 mois pour écrire ce livre. Les dernières photos sont extrêmement récentes puisqu'elles datent de août 2014. L'idée de percer ce canal de Panama, elle est ancienne, elle remonte au XVIe siècle, mais en fait la mise en œuvre du projet n'a débuté qu'en 1880, sous la pulsion d'un diplomate, un entrepreneur français qu'on connaît bien, Ferdinand de Lesseps, ce qui a surtout évidemment, qui est connu parce qu'il a fait construire ce canal de Suez, mais l'initiative a en fait assez mal fini, puisqu'il y a un énorme scandale de corruption lié à ces travaux qui a éclaté, ce sont donc les États-Unis qui finalement ont récupéré le projet, qui ont terminé l'ouvrage qui a ouvert en 1914. Depuis quelques années, on projette d'agrandir un peu cette voie, sauf qu'il y a quelques mois, il y a eu de fortes tensions entre le consortium chargé des travaux, emmené par une entreprise espagnole, Sacyr, qui demande à l'État panaméen de mettre un petit peu la main à la poche pour couvrir une partie des surcoûts de ce percement. Le chantier n'est pas encore achevé et la compagnie de travaux publics, Marc de Banville, qui est donc espagnole, elle est dans une situation aujourd'hui très délicate.
Absolument, on est dans une situation délicate. Mais bon, le canal a connu plusieurs époques de situations délicates. Ce qui est important de savoir, c'est qu'effectivement, encore une fois, si ça avait été une compagnie privée qui gérait le canal avec des actionnaires derrière, ce type de choses aurait pu vraiment la faire couler. Alors que là, il s'agit d'une entreprise autonome publique panaméenne qui a repris le canal des mains d'une entreprise publique américaine. Et seule une entreprise publique pouvait réussir une œuvre de ce type-là, si vous voulez. Parce que le retour d'un investissement aussi fort que ce que peut être la construction du canal de Panama ou l'élargissement du canal de Panama ne correspond pas aux attentes des investisseurs de sociétés capitalistes.
Pour quelle raison ?
Ben parce que, si vous voulez, c'est trop long.
C'est trop long.
Parce que,
on est dans le court-termisme.
Pensez au canal sous la Manche, au tunnel. Eurotunnel sous la Manche. C'est pareil. La société qui gère Eurotunnel se retrouve dans une situation extrêmement difficile. Elle a failli déposer le bilan plus d'une fois.
Mais pourquoi ce surcoût ? Pourquoi est-ce que ça coûte beaucoup plus cher que ce qu'on avait imaginé ?
C'est toujours le cas parce que les études peuvent être plus ou moins optimistes. Parce que aussi, comme il y avait un appel d'offres, il y avait plusieurs candidats, si vous voulez, le groupe mené par Sacyr, donc Grupo Unidos pour le canal, GUPC, avait fait une offre très basse, même tellement basse qu'elle était en dessous des estimations de l'autorité du canal de Panama.
Oh, c'est un classique pour remporter le marché.
Exactement. Et donc, ce qui se passe, c'est que c'est un jeu de menteur. C'est un peu « je te tiens, tu me tiens par la barbichette ». C'est-à-dire que l'autorité du canal savait qu'ils allaient demander plus. Et eux, ils savaient aussi qu'ils allaient attendre le moment où on pouvait difficilement reculer pour demander plus.
Mais qu'est-ce qui va se passer ? L'État panaméen va mettre la main à la poche justement et va permettre de finir les travaux ? Alors, est-ce que la société, le consortium espagnol, va faire faillite et c'est un nouvel acteur qui va récupérer la mise ? Enfin, comment vous voyez les choses ?
D'abord, ce n'est pas l'État panaméen qui est directement à la tête des travaux. C'est l'entreprise autonome publique autorité du canal de Panama, qui a un statut très particulier. Et cette entreprise a quand même une bonne trésorerie, elle a des revenus qui sont réguliers, qui fluctuent un petit peu avec les allées et venues de la mondialisation, mais qui sont quand même très très importants, qui lui permettent de contribuer au budget de l'État panaméen à l'hauteur d'un milliard de dollars par an, par exemple. Ce qui en fait le principal contributeur unique.
C'est quoi le statut aujourd'hui, justement, de ce canal de Panama ?
Le canal de Panama est aujourd'hui même le, on va dire, le canal de Panama est une marque déposée de l'autorité du canal de Panama. Donc, autorité publique panaméenne qui a été créée par un ajout à la Constitution et qui gère le canal de Panama pour le bien de tous et de tous les Panaméens.
Hmm. Avec Donc, la c'est différence, l'État panaméen qui gère quand même.
Ce n'est pas l'État panaméen. Ouais. On a affaire à une entreprise autonome publique. Elle a un fonctionnement d'entreprise. Elle est gérée par les administrateurs qui sont nommés par les gouvernants à chaque moment, mais qui, avec des. En gros, qui sont renouvelés par tiers pour 9 ans. Donc, avec une vision beaucoup plus large, si vous voulez.
Et quelle place ont les États-Unis dans cette entité-là ? Parce qu'on se souvient, bien sûr, de cet accord, de ce traité de Torrijos-Carter, du nom, bien sûr, Carter, de l'ancien président américain, et de Omar Torrijos, voilà, qui était le dirigeant du pays de 69 à 81.
L'homme fort du pays.
Voilà. Ce traité-là, il prévoyait, qui a été signé en 1977, il prévoyait la rétrocession pure et simple du canal de Panama à l'État panaméen en 1999.
D'ailleurs,
ce qui a été
fait. Le canal de Panama est panaméen depuis le 31 décembre 1999 à 11h du matin. J'étais là avec mes enfants franco-panaméens, donc je peux vous le garantir, le canal est panaméen. Alors maintenant, les traités sont en deux parties. Il y a une partie qui concerne, on va dire, la souveraineté sur la terre ou sur le canal. Et il y a une partie qui concerne la protection et la défense du canal. Sur la protection et la défense du canal, le traité stipule que la défense est assurée par le Panama et les États-Unis. D'accord ? À l'époque, le Panama comptait des forces de défense. D'accord ? Qui étaient d'ailleurs celles qui avaient appuyé le coup d'État militaire qui a porté ensuite Omar Torrijos au pouvoir.
J'ai cru lire, Marc de Banville, que, pardon de vous couper, je fais une parenthèse et puis je vous laisse poursuivre, que le canal était considéré, du point de vue des États-Unis, comme une voie d'eau intérieure aux États-Unis ? C'est le cas ? Non, pas tout à fait.
Ça ne l'a jamais été, parce que le canal a un statut très particulier et il y a eu, depuis le départ, il y a un statut de neutralité. Donc, ce n'est pas une voie intérieure. La zone du canal a été ce qu'on appelait un territoire américain désorganisé. En tout cas, une chose est évidente, c'est que les États-Unis et le Panama ont en charge la protection du canal, mais comme le Panama, depuis l'invasion américaine de décembre 89, n'a plus de forces armées, de fait, les États-Unis sont les seuls habilités à défendre le canal et en assurer l'opération continue.
Comment se fait-il, Marc de Banville, que les navires battant pavillon américain ont une priorité de passage sur les autres ? Et est-ce que c'est vrai, ça ?
Alors, non, ce n'est pas vrai. Enfin, ça va dépendre desquels. Il y a des exceptions qui peuvent être faites pour certains navires militaires à certains moments, mais tout ça, c'est géré par des clauses extrêmement spécifiques. Sinon, le canal est géré sous un principe de neutralité, ce qui veut dire qu'effectivement, normalement, aucun navire n'a de préférence.
D'accord.
Donc, au niveau des navires commerciaux, il n'y a pas de préférence. Au niveau de certains navires militaires, il peut y avoir des accords spécifiques. C'est le cas aussi pour Suez, par exemple.
Toute dernière question, Marc de Banville. Combien ça coûte de passer un navire par ce canal-là et combien ça rapporte chaque année à l'État panaméen ? On a une idée de ça ?
Alors, pour l'État panaméen, c'est assez simple. Ça rapporte, on va dire, plus d'un milliard de dollars par an. Aujourd'hui, on aime plutôt un milliard d'euros.
Rapporté à son budget, ça fait quoi ?
En ce moment, on est dans les 5% du budget, ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal du tout, c'est un vrai apport. Il ne faut pas oublier que le Panama est un tout petit pays, même si c'est un pays qui connaît un développement spectaculaire, avec des gratte-ciels partout, c'est un pays de moins de 4 millions d'habitants aujourd'hui. Donc, si vous voulez, l'apport du canal est extraordinaire et l'entreprise autonome publique panaméenne a apporté plus à l'État panaméen dans les 6 premières années de son opération que les Américains entre 1914 et 1999. Donc, si vous voulez, effectivement, pour le Panama aujourd'hui, pour le pays, le canal est une bonne affaire.
Alors, on envisage dans la région, Marc de Banville, de percer un nouveau canal au Nicaragua. Alors, l'idée, c'est de construire 286 kililomètres de canaux. C'est trois fois plus quand même que le canal de Panama. Donc, c'est vraiment gigantesque. Presque quatre fois plus, mm-hmm. destiné à faire passer donc des navires de, je lisais, plus de 250 000 tonnes, mesurant jusqu'à 455 mètres de long. C'est vraiment les plus gros navires qui soient, en tout cas. Le projet a été approuvé en juillet 2014 par l'Assemblée nationale du Nicaragua, donnant une concession pour une durée renouvelable de 50 ans au consortium chinois qui pilote le projet pour cette construction, pour le développement, pour la gestion aussi de cette voie. On n'a pas été transparent ni du côté de l'État nicaraguayen, ni du côté de la Chine. Dites-nous un peu qui sont les acteurs derrière ce projet. Expliquez-nous un peu, Marc de Banville.
J'aimerais bien savoir qu'effectivement, qui est exactement derrière. Pour le moment, en tout cas, officiellement, c'est un entrepreneur absolument inconnu, que personne ne connaissait, qui aurait fait fortune dans les télécommunications depuis la Chine, sud de la Chine et Hong Kong. Bon. Cet individu que personne ne connaissait, aucune photo publiée, se lance tout d'un coup dans un projet qu'il estime, lui, à peu près à 40 milliards de dollars, c'est-à-dire à peu près à 30 milliards d'euros, ce qui est absolument énorme comme somme, n'est-ce pas, avec un projet qui n'est absolument pas clair. Il obtient de Daniel Ortega une concession effectivement très importante qui est obtenue avec des changements à la constitution nicaraguayenne, de façon à permettre tout ceci et à permettre aussi...
Ah oui, carrément, il a fallu changer la constitution pour que ce projet soit envisageable.
Absolument, et très curieusement...
Mais je dis envisageable parce qu'on ne sait même pas si ça va aboutir, cette affaire-là.
Et très curieusement, au moment de changer la constitution, parmi les lois qui ont été changées, entre autres, figurait la réélection à peu près ad vitam aeternam de M. Ortega. D'accord ? Donc on va dire que de son côté, l'objectif est déjà atteint. En face, si vous voulez... On a affaire à des gens, si vous voulez. Le canal du Nicaragua était un canal extraordinaire pour le 19e siècle. Parce qu'il y a un lac naturel au milieu qui est extraordinaire, le lac Nicaragua.
Et 30, plus de 30 mètres au-dessus du niveau de la mer.
Absolument, mais il est absolument merveilleux parce que c'est un écosystème unique. Ce lac est très beau, mais il a un problème. C'est que sa profondeur moyenne est à 8 mètres. Donc quand vous voulez faire passer des bateaux qui ont 18 mètres de tirant d'eau, il faut que vous creusiez à 20 mètres. Or, vous creusez à 20 mètres dans un lac dont le sol est boueux, donc ça veut dire que chaque bateau qui passe va tout remuer. Ça veut dire que si soit vous draguez en permanence ce lac, et à partir de ce moment-là, les eaux sont en permanence boueuses, soit vous bétonnez sous l'eau peut-être 100 km de lac.
Mais où est-ce que vous voulez en venir ? Ce que vous voulez dire, c'est qu'aujourd'hui, techniquement...
Techniquement,
c'est pas réalisable.
Techniquement, il y a des problèmes monstrueux.
Sur le volet économique, est-ce que le projet est viable ?
Alors, sur le volet économique, en imaginant que ce canal ouvre, ce serait partager le gâteau du canal de Panama, qui n'est pas énorme, plutôt que de développer un nouveau marché. Donc, effectivement, au niveau opération, les retours seraient très faibles. Alors... En théorie, la Chine peut se le permettre. Elle peut se permettre de fonctionner à perte, pratiquement. Parce que ne nous cachons pas, derrière cet entrepreneur chinois, les patrons nicaraguayens qui ont été invités à voir les opérations et les techniciens qui s'occuperaient du projet ont tous été drivés par l'État chinois. Donc on est d'accord, on a l'État chinois qui monte un projet visant à construire un canal interocéanique chinois à deux pas des États-Unis. Là, c'est le troisième aspect, c'est-à-dire que diplomatiquement...
C'est ce que j'allais vous dire,
Marc de Banville. C'est absolument irréaliste.
Le jour de la signature du contrat, septembre 2013, donc l'ancien guerriero sandiniste Daniel Ortega, il affirme la chose suivante. Le canal donnera au Nicaragua une pleine et définitive indépendance économique et il poursuit. Le peuple de Chine est source d'inspiration, de développement et de croissance pour l'humanité. J'imagine que les États-Unis, quand ils ont entendu ça, qu'ils voient arriver aussi ce nouveau concurrent, ce nouvel acteur, la Chine... le concurrent direct. Concurrencer directement le canal de Panama, ça a dû avoir un effet considérable. Les Américains n'ont pas dû être franchement contents.
Alors, si vous voulez, c'est relativement simple. Il n'y a aucune déclaration officielle. Pour le moment, c'est no comment.
Or, aux États-Unis, c'est une déclaration officielle. Hein.
Non, il n'y a aucune déclaration officielle de la part des États-Unis.
D'accord.
Et quand les États-Unis ne font pas de déclaration officielle sur quelque chose, c'est que la politique antérieure continue d'être valable. Or, la politique antérieure pour le canal a été définie de façon très claire par un président américain en 1880 et elle ne varie pas. Les États-Unis considèrent que tout canal interocéanique en Amérique doit être sous le contrôle et la protection des États-Unis. Point. cette politique est toujours valable.
Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, de deux choses l'une, soit la Chine abandonne le projet, soit la Chine décide d'engager le projet, auquel cas on va à la confrontation, là.
On va forcément un petit peu à la confrontation, mais les Chinois sont plus malins que ça. Si vous voulez, ce qui est en jeu ici, à mon avis, c'est plus une banderille. C'est plus une banderille qui peut
manière
servir...
Manière de montrer les muscles.
Une façon de pouvoir servir de monnaie d'échange demain avec des négociations compliquées sur, par exemple, Taïwan, la Corée, certaines îles pétrolifères au sud du Japon, tout un tas de choses.
On se fabrique un outil géopolitique, en gros.
Voilà, c'est un levier. C'est un levier. Et entre-temps, tout ne sera pas perdu parce qu'au-delà de la concession purement et simplement sur le canal, ont été accordées des concessions sur des hôtels de luxe, des pistes d'aéroports, etc. Et cela,
des projets qui, eux, aboutiront après.
Oui. À mon avis, on va en rester là.
Merci beaucoup, Marc de Banville, d'être venu dans nos studios coiffé d'un Panama, justement.
Absolument.
Marc de Banville, obligatoire. Marc de Banville, Le canal de Panama, un siècle d'histoire, un ouvrage, un beau livre qui vient de paraître chez Glénat, que vraiment je conseille aux auditeurs. Hein, c'est la période de Noël, donc allez-y, on s'est régalé, nous, à le lire. D'ailleurs, je n'ai pas fini, je vais le garder. Merci beaucoup, Marc de Banville. Un grand merci. Pierre Royer, c'est vrai que c'est malin de la part des Chinois de monter comme ça un projet qui peut-être n'aboutira pas, mais en tout cas qui permet de se fabriquer un petit levier géopolitique face aux États-Unis qui, pourquoi pas, à un moment servira dans des négociations, en disant bon, voilà, vous nous lâchez ça et nous on lâche notre projet de canal qui, visiblement, d'un point de vue technique et même d'un point de vue économique, n'est pas vraiment viable.
Oui, c'est une sorte de... On voit bien que la Chine n'a pas encore complètement les moyens de rivaliser avec les États-Unis en tant que puissance mondiale et notamment que puissance navale, puisqu'on parle du contrôle des routes maritimes. Donc, l'idée d'avoir une espèce de monnaie d'échange qui pourrait éventuellement inquiéter les Américains, c'est une bonne idée. De la même façon que quand elle a déployé un certain nombre d'installations portuaires tout autour de l'océan Indien, les Américains ont parlé du collier de perles chinois, mais c'est aussi une façon pour les Chinois de montrer, notamment à l'Inde, qu'il allait falloir compter avec elle désormais pour le contrôle de cet océan qui est tout à fait vital. On l'avait évoqué tout à l'heure quand on parlait du détroit d'Ormuz. Maintenant, il est sûr que... Est-ce que pour autant c'est une monnaie d'échange crédible? Il faut quand même que le projet ait un minimum de tenue, on va dire, en termes techniques et en termes commerciaux. Or, ce qu'a dit votre intervenant est tout à fait juste. C'est-à-dire que, bon, d'abord, l'évaluation de 40 milliards, comme souvent dans ce genre de travaux, on peut penser que ça sera beaucoup plus que ça, parce qu'on est déjà à une estimation de 20 milliards pour le deuxième Bosphore. Là, c'est quand même un canal d'une toute autre dimension, avec des difficultés considérables. Il faut se souvenir aussi de l'expérience malheureuse de l'ESSEPS pour le premier Panama, qui a dû arrêter les travaux parce qu'il n'y arrivait pas. Donc là, on a probablement les difficultés du même ordre, voire encore pire, puisque les dénivelés sont plus importants, avec les contraintes qu'a évoqué votre intervenant. Et c'est vrai que d'un point de vue commercial, j'ai fait une estimation rapide, on va dire, qui n'a pas de valeur très précise, c'est pas un business plan, mais en Panama, en général, un navire, notamment un porte-conteneur, ça paye entre 130 et 150 000 dollars par passage. Donc avec cette base-là, en admettant même que le budget soit tenu, il faudrait, sur la concession initiale qui est de 50 ans, il faudrait que le canal réussisse à faire passer au moins 20 navires par jour, c'est-à-dire à peu près la moitié de ce que fait Panama. Et ce qu'on peut prévoir, c'est justement qu'il y aura plutôt un détournement d'une partie du trafic plutôt qu'un ajout de trafic. Parce qu'en fait, le passage par le canal de Panama était avant essentiellement un passage intéressant pour les États-Unis. Or, aujourd'hui, le passage de côte à côte inter-américain, on va dire, enfin intra-américain plutôt, ne représente plus que même pas 3% du passage du trafic du canal de Panama. Parce que les États-Unis utilisent désormais plutôt le transport ferroviaire pour aller de la côte est à la côte ouest. Et c'est finalement plus rapide.
Allez, on quitte le continent américain, on quitte cette zone, cette Amérique centrale. On va prendre la direction du détroit de Malacca, cette fois, ce grand couloir maritime. On est au
très
sud-est de l'Asie, coincé en gros entre la Malaisie et l'île indonésienne de Sumatra. C'est à l'entrée de ce corridor, d'ailleurs, que se trouve évidemment Singapour, deuxième port au monde en termes de tonnage exporté, après celui de Shanghai, direction Malacca.
Y a-t-il des nouvelles pour notre passage par le canal?
Non, non.
n'y a pas de décision, pas de décision. Pour le moment, personne ne traverse. Personne ne traverse, vous devez attendre. À vous.
Eux aussi, ils attendent ?
Oui, oui, regardez, tous les navires attendent là.
Et oui, tous les navires attendent là. On va parler maintenant de ce détroit de Malacca avec Nathalie Faux, qui est en direct avec nous depuis Kuala Lumpur, en Malaisie. Bonjour Nathalie Faux.
Bonjour Monsieur Delorme.
Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Il y a un petit décalage, c'est normal, mais la liaison est excellente. Vous êtes maître de conférence à l'Université Paris 7. Vous êtes rattaché au laboratoire IRASEC de Bangkok, Institut de recherche Asie du Sud-Est contemporaine, et puis également chercheuse associée à l'Institut maritime de Malaisie. Alors, il y a des dizaines de milliers de navires qui empruntent ce détroit de Malacca chaque année. Alors, chaque année, le trafic s'intensifie. C'est une route centrale pour le commerce mondial. C'est aussi un passage essentiel en matière d'approvisionnement de pétrole, notamment celui qui va permettre au Japon et surtout à la Chine de se développer, ce qui fait évidemment, mais il faut peut-être le rappeler pour les auditeurs, que ce passage, c'est un enjeu géostratégique majeur dans la région, Nathalie Faux.
Oui, c'est un enjeu géostratégique majeur, mais vous avez signalé le Japon. Il faut bien voir que le Japon a entre 75 et 80% de son pétrole en provenance du golfe arabo-persique qui passe par le détroit de Malacca, d'où l'intérêt pour le Japon de participer depuis les années 60 à la sécurisation du détroit de Malacca. Mais la situation est exactement la même pour la Chine, puisque la Chine importe de plus en plus et est de plus en plus dépendante de ce détroit de Malacca, avec aussi 75 à 80% de ses flux énergétiques qui passent par le détroit de Malacca, à tel point que le président chinois en 2003 avait parlé du dilemme de Malacca pour dire cette situation de dépendance de la Chine avec cette possibilité pour une puissance maritime de déstabiliser l'économie de la Chine en contrôlant ou en essayant de bloquer le détroit de Malacca. C'est une des raisons qui explique pourquoi la Chine est actuellement en train d'essayer de rechercher des routes alternatives au détroit de Malacca pour sortir de cette dépendance. Et même si ces recherches de solutions alternatives ont pu parfois être perçues aussi comme peut-être des volontés de prise de possession militaire, notamment avec des bases maritimes dans l'océan Indien, dans l'océan dans la mer de Chine du Sud, avec ce qu'on a souvent dénommé comme étant le collier de perles.
Mais a priori, c'est vrai qu'on peut comprendre cette Chine, Nathalie Faux. On comprend qu'elle est extrêmement dépendante de ces flux, extrêmement dépendante de ce passage. Alors, trouver des stratégies de contournement, soit, mais a priori, le plus facile pour elle, pour la Chine, ce serait tout simplement d'assurer la sécurisation de la zone.
Oui, mais d'assurer la sécurisation de la zone, mais le détroit de Malacca est beaucoup plus dominé par Singapour, par les États-Unis. Donc assurer cette sécurité de la zone, ça peut être justement de deux façons. Ça peut être soit de trouver des routes alternatives. Par exemple, la Chine investit beaucoup dans des ports au Myanmar, en Birmanie, pour essayer de construire des oléoducs, par exemple, depuis Sichuan jusqu'à Kunming, et qui pourraient approvisionner la Chine, ou bien en créant des bases maritimes qui pourraient peut-être éventuellement être ensuite transformées en bases militaires. Mais en tout cas, c'est vrai que cette façon de sécuriser la zone, c'est considéré un peu comme un enjeu vital pour la poursuite de l'économie chinoise. Mais ça passe aussi par une volonté de développer une coopération maritime, par exemple avec les États riverains du détroit de Malacca, l'Indonésie, la Malaisie et Singapour. Notamment, la Chine est maintenant directement intégrée dans ce qu'on appelle le système de coopération. C'est-à-dire que jusqu'à présent, seuls les États riverains, jusqu'en 2007-2008, participaient au financement de la sécurisation du détroit de Malacca. C'est-à-dire que c'était un coût qui était très lourd. Et grâce à les négociations des pays riverains avec l'IMNO, on a réussi à mettre en place ce système de coopération qui permet que les États restent souverains, c'est-à-dire que c'est eux qui vont décider quelles sont les infrastructures de transport à mettre en place dans la zone et demander aux pays États utilisateurs de financer ces installations. Et la Chine, par exemple, participe de plus en plus au financement de ces infrastructures.
D'accord, donc si je comprends bien, ça c'est la convention de Montego Bay de 82 dont on parlait avec Pierre Royer qui prévoit ça. Normalement, la sécurité de ce détroit de Malacca, elle est à la charge, c'est le droit international qui nous dit ça, elle est à la charge des États riverains et donc de l'Indonésie et de la Malaisie. Mais comme ces deux pays n'ont pas forcément les moyens d'assurer cette sécurisation parce que ça coûte cher, c'est ce que vous nous dites, en gros, on a créé une entité qui permet de de partager justement ce coût. Mais c'est quelque chose, j'imagine, qui doit aussi un peu inquiéter l'Indonésie et la Malaisie, parce que quand vous faites ça, vous lâchez un petit peu de votre souveraineté, vous lâchez un petit peu de votre droit sur ce détroit.
C'est un peu la question. L'Indonésie, la Malaisie regardent attentivement justement ce droit. Et dans ce système de coopération, c'est eux qui continuent de déterminer les priorités en termes de sécurisation du détroit. Mais c'est vrai qu'il y a une crainte que ce soit un petit peu que la mise en place de ce mécanisme qui a été réclamé depuis plus de 20 ans par les pays riverains, parce que les coûts n'arrêtent pas d'augmenter avec l'augmentation de la circulation dans le détroit. Il est vrai que ils considèrent aussi que des fois c'est un petit peu un cheval de Troie, parce qu'il y a les États utilisateurs de plus en plus sont en train de dire que puisqu'ils participent au financement, il serait légitime aussi qu'ils participent à la décision, à la prise de décision. Mais pour l'instant, ces États résistent et dès qu'ils peuvent en fait montrer au monde entier qu'ils sont capables de sécuriser le détroit, par exemple pour lutter contre la piraterie et ainsi de suite, de montrer que ce ne sont pas des États faibles, ils le font parce qu'ils savent bien que la crainte, surtout avec des enjeux de plus en plus importants du détroit de Malacca, étant donné les enjeux de l'océan Indien et de la mer de Chine du Sud qui sont en train de monter avec la présence de l'Inde et de la Chine des deux côtés maintenant. Pour l'instant, ils résistent à cette pression, mais c'est vrai qu'il y a toujours des inquiétudes et on a des États qui sont très impliqués dans toutes les réunions mondiales pour justement montrer que ce qui s'est passé, par exemple, dans le golfe d'Aden pour les États faibles ne doit pas se reproduire dans le détroit de Malacca.
Vous pensez, Nathalie Faulk, que dans les années à venir, une crise géopolitique pourrait naître dans ce détroit de Malacca, autour de ce détroit de Malacca ? C'est une possibilité ? Et puis qui serait impliqué ? Alors évidemment, on pense à la Chine tout de suite.
Je pense que le détroit de Malacca, en fait, l'évolution du détroit de Malacca va refléter en fait ce qui va se passer dans l'océan Indien et en mer de Chine du Sud. Donc c'est pas tellement le détroit de Malacca qui sera l'élément déclencheur s'il y avait une crise, mais c'est plutôt ce qui va se passer des deux côtés. Et c'est vrai que l'évolution du détroit de Malacca, des enjeux sont directement liés à ce qui va se passer en mer de Chine du Sud et dans l'océan Indien. Qu'il y ait une crise, ce serait sur le plan économique pour tous les pays asiatiques, ce serait une vraie catastrophe, mais aussi pour les pays européens, hein, puisque vous avez la route Europe-Asie qui est une des principales routes maritimes mondiales en termes de flux conteneurisés, même chose pour le pétrole. Donc,
Je dis que ça pourrait être le théâtre d'une nouvelle crise.
Personne.
Je dis que ça pourrait être le théâtre d'une nouvelle crise, notamment parce que on sait que c'est une zone privilégiée pour la piraterie et le terrorisme, et qu'il faut toujours une étincelle à une crise et qu'elle pourrait venir justement de ça.
Alors là aussi, la perception des risques est vraiment très différente, je dirais, entre les États utilisateurs ou Singapour ou les États-Unis et des pays comme l'Indonésie et la Malaisie. L'Indonésie et la Malaisie ont toujours estimé qu'il y avait une sorte de surestimation des risques liés à la piraterie et notamment des risques de collision entre la piraterie et le terrorisme. On en a parlé beaucoup après 2001, après les attentats du 11 septembre. Le détroit de Malacca a même été décrété comme espace dangereux. L'Indonésie et la Malaisie ont mal réagi parce qu'elles ont considéré en fait que cette surestimation des risques était surtout liée à la volonté des États, des grandes puissances, de pouvoir s'ingérer beaucoup plus dans la sécurisation du détroit qu'elles ne le font actuellement.
Pierre Royer,
donc le problème, c'est peut-être d'évaluer ces risques.
Pierre Royer, surestimation de ce phénomène de piraterie, et puis plus généralement sur ce détroit de Malacca.
Disons que c'est vrai que le détroit de Malacca, ça reste un des pôle majeur de la piraterie aujourd'hui. Elle a beaucoup diminué, par exemple, dans l'ouest de l'océan Indien, quasiment disparu. Mais dans le détroit de Malacca, elle s'est plutôt renforcée. Mais c'est vrai que ça reste une piraterie, je dirais, un peu à l'image de la piraterie somalienne, une piraterie de grand banditisme, en quelque sorte, naval. Les implications politiques sont relativement rares. Et je dirais que c'est vrai que Malacca est peut-être moins chaud, entre guillemets, comme point de tension qu'Ormuz, parce que pour Malacca, il y a quand même éventuellement des portes de sortie. On peut passer à côté. Il y a déjà des détroits qui sont empruntés d'ailleurs par les plus gros navires parce que Malacca ne peut pas laisser passer tous les navires. Donc c'est pas, effectivement, votre intervenante a tout à fait raison. C'est plus la situation en mer de Chine méridionale qui est un peu explosive ou les implications de ce qui se passe en océan Indien qui seraient éventuellement à l'origine d'une crise plus que le détroit lui-même.
Merci beaucoup. beaucoup à vous, Père Royer. Et puis un grand merci également à Nathalie Faux qui était avec nous en direct depuis Kuala Lumpur, où nous disait-elle, en préparant la liaison juste avant, il fait extrêmement beau, 30 degrés, nous dit-elle. Vous avez beaucoup de chance, Nathalie Faux. Un grand merci à tous nos invités ce matin. Somewhere beyond the sea, she's there watching for me. If I could fly like birds on high, then straight to her arms I'd go sailing. It's far. Ah, puis on continuera évidemment notre série demain sur ce transport maritime. On parlait à l'instant de la piraterie, bah c'est un sujet justement qu'on abordera, ça sera jeudi, donc on verra si... Il s'agit d'un risque surestimé ou pas. En tout cas, un grand merci, Pierre Royer. Je rappelle votre ouvrage « Géopolitique des mers et des océans » paru au PUF cette année. C'est une seconde édition. On se quitte donc avec Beyond the Sea, Bobby Darin. Dans un instant, sur France Culture, c'est La Grande Table avec Caroline Brouet. Mais avant de la retrouver, c'est La Vie Moderne. Merci. Happy we'll be beyond the sea, and never again I'll go sailing.